Nous connaissons bien ce passage de l'Évangile et surtout la conclusion du passage. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et au fond, à travers cette invitation du Seigneur, c'est tout un éclairage qui nous est donné sur la manière de vivre la laïcité. D'une certaine manière, c'est Jésus lui-même qui a établi la laïcité en séparant le pouvoir religieux du pouvoir temporel. Et le Saint-Père, lorsqu'il est intervenu au Parlement de Berlin lors de sa dernière visite en Allemagne, disait la chose suivante. Dans l'histoire, les règlements juridiques ont presque toujours été motivés de façon religieuse. Sur la base d'une référence à la divinité, on décide ce qui est parmi les hommes juste. Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé ni un règlement juridique découlant d'une révélation. C'est intéressant ce petit passage d'un très très beau discours que je vous invite à approfondir, parce qu'au fond, dès l'aube du christianisme, il y a cette conviction que la réalité de Dieu et la réalité des hommes, même s'il y a des ponts entre les deux, la réalité politique et la réalité religieuse, eh bien Jésus est venu comme donner à chacun sa propre place. Au passage, et peut-être nous n'avons pas à l'esprit cette grande séparation que le Seigneur établit, et surtout cette grande révolution qu'il fait en disant « rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César », parce que, vous le savez, les Césars se considéraient comme Dieu. Et au passage, non seulement il rend la laïcité possible, mais aussi il remet le César à sa place. Aujourd'hui, nous assistons, frères et sœurs bien-aimés, non seulement à une laïcité, à une séparation, en tout cas dans nos pays occidentaux, mais surtout on assiste comme à un rejet de Dieu, et on confond la laïcité comme dire que la question de la foi est simplement dans le domaine privé et ne doit pas, d'une manière ou d'une autre, être présente sur le domaine public. J'ai écouté comme ça une émission sur une publicité un petit peu provocante, etc. Et parmi les auditeurs qui pouvaient appeler, bien, il y avait un prêtre. Et un prêtre qui appelait, écoutez, oui, c'est vrai que cette publicité, moi, me paraît, bon, pas vraiment adaptée à la situation de la famille, etc., etc. Et un des journalistes commence à dire, de façon très courtoise, mais en quoi ça vous regarde? Ce n'est pas du domaine de la religion. Et il était presque surpris qu'un prêtre puisse intervenir dans le débat public comme prêtre. De même, il y a eu cette même surprise lors des révisions des lois de bioéthique, lorsque l'Église s'est mobilisée très fort pour établir une réflexion et faire intervenir différentes voix pour faire et expliquer sa position dans différents domaines. En quoi ça vous concerne? Vous voyez, nous assistons à une laïcité, non pas une laïcité, mais à un rejet de Dieu, qui n'est pas la laïcité selon l'Évangile. Le Saint-Père, lorsqu'il est venu en France, a parlé de laïcité ouverte, ouverte aux religions qui ont leur place, qui n'ont pas toute la place et n'ont pas à la voir, mais qui aussi sont des forces de proposition pour le pays, pour sa construction sociale et pour le bien commun. On arrive en France à faire qu'on n'ose même plus parler de sa propre religion, particulièrement les catholiques, et que du coup ça devient tellement privé qu'on le dit à mi-voix et on s'auto-censure, alors que d'autres seraient peut-être contents de savoir nos convictions. La vraie position que l'Église dit, c'est certes, l'État n'a pas à être théocratique, c'est-à-dire régi par un droit révélé, comme le Saint-Père le manifeste et le rappelle dans son discours au Parlement de Berlin, hein, comme c'est le cas, par exemple, dans le peuple d'Israël, sous l'Ancienne Alliance, sous la Torah. La Torah était la loi du peuple d'Israël, ou dans certains pays musulmans, la charia qui est révélée est la loi. Le christianisme n'a jamais opté pour une loi révélée pour régir la société civile. Et en cela, cela nous dit aussi que nous sommes invités, frères et sœurs, à nous, comme chrétiens et spécifiquement comme catholiques, à prendre part dans le débat qui anime notre société et à le faire à haute voix, à le faire à redire ce que nous portons, parce qu'au fond, lorsque l'on voit le découpage des pays laïcs, entre guillemets, eh bien ça recoupe aussi les pays d'ancienne chrétienté. Le christianisme a rendu à chacun sa propre place, mais à nous aussi de prendre notre place. Nous ne voulons pas d'une religion qui soit reléguée aux églises ou aux sacristies. Nous ne voulons pas d'une religion qui n'ait rien à dire, qui soit simplement dans le spirituel. Au contraire, la religion, et spécifiquement la religion chrétienne, a son mot à dire parce qu'elle redit à l'homme sa vraie vocation. Quelle est l'effigie qui est sur cette pièce, demande Jésus. Mais nous pourrions aussi dire, quelle est l'effigie qui est inscrite au cœur de chaque personne humaine. Cette image et cette ressemblance de Dieu disent aussi une manière de gouverner. N'ayons pas peur de nos propres convictions, n'ayons pas peur d'abord de nous impliquer dans ce débat politique, même s'il n'est pas simple, ne serait-ce qu'en votant, en prenant notre part dans le débat démocratique, en nous inscrivant sur les listes électorales. L'Église demande que le chrétien, et c'est un devoir pour lui, en participant, eh bien, il donne aussi sa voix et son opinion. Mais comment faire entendre la voix et l'opinion de l'Évangile si nous-mêmes nous ne participons pas? Il y a un certain désenchantement, c'est vrai, par rapport à la politique, mais en même temps, le Seigneur nous dit, ben, rendez à César ce qui est à César. Il y a là une place pour le politique qui est au service de la personne humaine. Mais cette personne humaine, l'Église la voit de façon particulière, comme venant de Dieu et retournant à lui, sauvée par le Christ. Nous avons cette vision de cette personne humaine qui a une dignité absolument extraordinaire, qui fait que le politique ne peut pas la réduire en esclavage, pour ainsi dire. Alors oui, nous pouvons redemander au Seigneur d'avoir cette conviction intérieure de ne pas nous laisser influencer par personne, comme disent les pharisiens qui voulaient, les partisans d'Hérode, qui voulaient justement flatter Jésus. Mais nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne, tu ne fais pas de différence entre les gens. Eh bien oui, quelque part, ils sont prophètes, ces partisans d'Hérode, même si c'était pour tendre un piège au Seigneur, nous croyons que Jésus est celui qui dit toujours vrai, qui enseigne le chemin de Dieu, et nous croyons qu'il ne fait pas exception des personnes. Alors la présence du Christ nous donne aussi dans notre société une manière d'agir, une manière d'entreprendre, une parole qui est attendue. Et croyez bien, frères et sœurs bien-aimés, que la parole des chrétiens est attendue. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Nous nous auto-censurons, nous nous auto-inhibons parce que c'est tellement sensible et puis il y a tellement de pudeur qu'on n'ose pas dire. Et puis au détour d'une conversation, eh bien on découvre que tel ou tel est impliqué dans un mouvement d'église ou dans telle paroisse, mais personne, par exemple dans le milieu professionnel, n'en a rien dit. Notre parole, notre exemple est attendu. Tant d'hommes, tant de femmes, aujourd'hui, attendent une espérance que le Christ lui-même nous a apportée par son amour victorieux. Alors n'ayons pas peur du regard des autres, n'ayons pas peur de cette tentation de nous replier sur nous-mêmes, et on le voit aussi dans l'Église, les formes de repli identitaire. C'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, au contraire, c'est pour être un ferment dans la pâte, un levain dans la pâte pour redire à chaque personne humaine et à chaque société les droits fondamentaux de chaque homme et de chaque femme. Mais ces droits fondamentaux, c'est bien dans l'Évangile qu'ils trouvent aussi leur fondement. Demandons au Seigneur d'avoir cette fierté légitime que le christianisme a donnée à la personne humaine une telle dignité que maintenant, il est impossible de la fouler aux pieds sans être montré du doigt par la communauté internationale. Mais ça, c'est bien un fruit de la tradition judéo-chrétienne. Ces fondements qui basent, sur lesquels se base notre propre vie politique, eh bien, sont hérités, non pas comme quelque chose du passé, mais sont hérités de l'Évangile. Alors on nous dit, oui, c'est notre patrimoine, mais aujourd'hui, ça n'a plus tellement d'importance. Nous disons non. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit dire une parole. Et vous savez que les évêques de France ont fait un papier, pour ainsi dire, oui, un memento, en disant, voilà, question pour réfléchir aux prochaines élections présidentielles. Alors bien sûr, ils n'ont pas désigné de candidats, de toute façon, ils ne connaissaient pas les candidats, et ce n'est pas leur rôle. Mais une chose dont ils ont parlé, ils ont dit, il ne faudrait pas que le débat politique se réduise simplement à des questions économiques. Il faudrait aussi savoir quelle société nous voulons construire, quelle manière de vivre ensemble nous voulons bâtir. Ça, c'est aussi important. Quelle famille nous voulons former comme nation. Les questions fondamentales qui habitent l'Église peuvent servir pour bon nombre de politiques comme une source d'inspiration et au contraire enrichir le débat citoyen. Nous demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce de, à notre place dans la société, mais cette grâce d'avoir une voix qui porte, d'être les porte-parole de ce Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.